Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce 24e épisode ou 24e chapitre d'Histoire de Gamer. J'espère que vous allez bien. Luc Desormeaux au micro. Et ce soir, j'ai un invité de marque, quelqu'un que vous connaissez probablement. C'était le responsable rédacteur en chef du site Jouer.com et maintenant concepteur en chef chez Binox, un petit studio de Québec qui ont fait des petits jeux que vous connaissez peut-être, genre Scalander et certains jeux de Spider-Man pour la compagnie Activision. Et j'ai nommé François Taddeï. Salut François.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien toi?
Très bien, merci.
François qui est arrivé sur les chapeaux de roue à soir, a fini de travailler tard, arrive, puis tout ça. Tu sais, un vrai gars de jeux vidéo, le gars qui commence de bonne heure, finit tard et tout ça. On a parlé beaucoup à du monde qui travaille dans ce domaine-là, puis ça semble prenant comme travail, j'imagine.
Oui, ben c'est une passion hein, pour bien des gens de notre industrie. Puis effectivement, nous, on a des horaires flexibles. On peut arriver entre 8h et 9h le matin. Puis ensuite, on quitte entre 5h et 6h. Moi, je suis une personne qui arrive un peu plus tard. Puis comme je reviens en vélo à la maison et que j'ai une côte de 8 km à monter, c'est des fois un peu plus long de revenir le soir, effectivement.
Un petit peu plus fatigant quand tu as ta journée dans le corps.
Oui.
On va commencer, on va parler un peu de Jouer.com. Ça a été un site qui a quand même fait sa marque dans le monde du jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens qui sont moyennement connus aujourd'hui, qui sont connus du monde du podcast qui était sur ce site-là, qui écrivaient pour ce site-là, dont Max Tremblay, puis Mélanie Boutin-Chartier, qui ont commencé là. Parle-nous un peu de Jouer.com. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Comment ça a commencé? Je sais que tu es arrivé là, puis ça existait déjà, là, selon ce que tu m'as dit. C'était Tristan Geoffroy qui avait comme un peu le mandat de partir ça, mais tu as pris la relève à un moment donné. C'était comment gérer ce site-là? C'était quoi au juste?
Ben, c'est exact. Ça se trouve un peu je dirais une croisée des chemins. Moi, je venais de terminer un peu de faire Micro-Info et là, je me recherchais un petit peu du travail au niveau de la rédaction et je dirais de la culture du jeu vidéo. Et comme Tristan quittait pour aller en France, il est revenu depuis, mais la place était libre et Patrick Pierrot m'avait contacté pour voir si j'étais intéressé et j'avais accepté de relever ce défi-là. J'avais déjà de l'expertise au niveau du site web parce que, bon, puisque j'avais fait Micro-Info pendant plusieurs années, bien sûr, l'émission avait un site web, je m'en occupais, j'étais capable d'écrire du contenu, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Mais quand je suis arrivé, c'était quand même un site avec du contenu assez léger. Il y avait quelques critiques, mais pas beaucoup. Puis moi, j'ai voulu plus développer cet aspect-là, l'aspect on réalise des critiques de jeux vidéo. Et donc, j'ai recruté progressivement des gens, justement comme Maxime, comme Mélanie, pour écrire des critiques. Puis, ça allait quand même assez rondement. Là, à un moment donné, on pouvait écrire une vingtaine de critiques en simultané qui étaient publiées. On espaçait ça tout au long de la semaine. Et à ça, c'est joint d'autres types de rubriques, bien entendu, pour couvrir l'actualité des jeux vidéo, répondre aux courriers des lecteurs, ce genre de choses-là. Et même éventuellement, lorsqu'il y a eu, je dirais, un petit peu de bouleversement au niveau des lois et des jeux en français au Québec. Il y avait de plus en plus de questions sur qu'est-ce qui est en français, dans quel jeu est en français. Et là, donc, est né un sous-site qui était joué en français, qui lui faisait un genre de répertoire de qu'est-ce qui est disponible en français dans le monde du jeu vidéo. Donc, ça m'a occupé pendant plusieurs années, tout ça, jusqu'à temps, bien entendu, que le site a été vendu à Rogers. Rogers a, à un moment donné, revu ses activités au niveau de l'Internet et décidé de fermer plusieurs sites, dont Jouer.com, qui a disparu à ce moment-là. J'ai conservé les archives de Jouer. Je les ai mis sur le site micro.info pour ceux qui veulent aller les consulter. C'est des archives qui vont quoi de 2006 à 2012. Mais il n'y a pas eu de résurrection, de projet de résurrection. J'y ai pensé à quelques moments, mais c'était quand même prenant, Jouer.com. Puis ça occupait beaucoup de mon temps, puis c'est pas si mauvais que ça d'avoir du temps libre dans la vie des fois pour faire autre chose. Ouais. Et je ne ressens plus le besoin de dire « Ah, je dois relancer Jouer.com ». Bon, ça déçoit des gens, désolé, mais j'ai d'autres priorités.
Moi, ouais, c'est sûr, là, t'es rendu quand même assez haut chez Binox, qui est un studio qui a quand même pas mal de succès. Je joue personnellement à certains jeux que vous avez sortis et on les apprécie beaucoup. C'est quoi ton travail chez Binox? Qu'est-ce que tu fais présentement, là?
Alors, depuis très, très peu, depuis quelques semaines, je suis concepteur en chef. Donc, ça veut dire que maintenant, j'ai la charge d'une équipe de conception. Donc, j'ai la responsabilité de motiver, d'encadrer des gens, de les aider à se développer, qu'ils soient des game designers, des level designers, donc concepteurs de jeux, concepteurs de niveau, des concepteurs techniques aussi, des concepteurs narratifs. Donc, ça, c'est un autre défi. C'est un défi plus de management. Je dirais que plus de 50% de mon temps, c'est des meetings, de la gestion personnelle, donc c'est différent. Mais j'avais un peu cette expérience-là, tu sais, dans le temps quand je faisais, tu sais, Jouer.com ou même avant Micro-Info, j'ai toujours géré des équipes. Donc c'est quelque chose avec lequel je suis familier. Puis je suis très heureux là, de relever ce défi-là.
C'était juste comme naturel pour toi de, tu sais, encore gérer une équipe, mais là, au lieu de parler, de critiquer des jeux vidéo, mais t'en crées.
Exact, exact. Puis c'est certain. Bon, je travaille sur un nouveau projet dont je ne peux vous parler. Ça, c'est le commun. C'est notre industrie. C'est toujours ça qui est le plus frustrant parce que bon, on travaille des fois des trucs super cool, mais on peut pas vraiment parler parce que j'ai pas annoncé. Il y a de la concurrence. Il y a des secrets professionnels. Alors, puis aussi des fois des projets qui avortent là. C'est tout à fait commun dans notre industrie de travailler pendant quelques temps, 6 mois, 9 mois, 1 an sur un projet et éventuellement, bon, on regarde ça, le marketing regarde ça, puis on se rend compte que c'est plus le moment pour un projet ou que ça devient, ça mute et ça devient un nouveau projet différent. Donc, le lâcher prise est vraiment très important dans notre industrie. Il ne faut pas se tenir mordicus à nos idées parce que 50% de nos idées s'en vont à la poubelle.
Ça prend le chemin des vidanges, comme on
Oui.
pourrait dire. Ouais, c'est ça, puis c'est vrai que ça frappe un peu pour tu sais, nous autres gamers, comme c'est comme où je sais pas si tu as lu la nouvelle que Blizzard avait décidé de laisser tomber Projet Titan, qui ont travaillé dessus pendant des années. Tu sais, fait que j'imagine, tu sais, un projet, si eux autres qui étaient c'était supposé être leur prochain MMO, a décidé juste de foutre ça à la poubelle, puis c'est fini, on travaille sur autre chose. Ça doit arriver à peu près dans tous les studios, peut-être à moins grande échelle, mais ça doit arriver quand même. Vous avez eu des jeux, vous avez travaillé dessus, puis à un moment donné, bah, bouf, mettons, la compagnie qui vous a demandé ça, ou même vous autres décidez, mais le projet a plus sa raison d'être, puis on
Non,
travaille sur d'autres choses.
exact. Puis des fois, on peut avoir une idée. C'est pas parce qu'on a jeté un projet à la poubelle qu'il n'y a pas des idées dans ce projet-là qu'on va pas recycler dans un nouveau jeu. Parce que c'est intéressant, c'était soit une mécanique de jeu, soit une interface de jeu. C'est un élément de jeu qu'on dit, hey, ça, c'était vraiment cool. On pourrait peut-être, dans ce nouveau jeu-là, l'adapter. Donc, il y a toujours de l'espoir pour les idées qu'on a mises à la poubelle. Elles peuvent revenir. Des fois, elles peuvent revenir nous hanter parce qu'on, des fois, on a dit, on n'était pas si mécontent que ça qu'elles se retrouvent dans la poubelle parce que on n'était pas, ah, c'était peut-être pas notre meilleure idée. Mais, je veux dire, des fois, ça se transforme et ça revient nous hanter un peu.
Ouais, des fois, c'est ça, tu dis, ah, ça aurait vraiment pas marché, cette mécanique-là. Une chance qu'on a scrappé ça.
Ouais.
Si on y va, mettons, je sais que vous avez travaillé sur des jeux quand même assez épiques. Vous avez la franchise Skylander que vous travaillez dessus, qui est connue de à peu près tout le monde de sa planète. Si vous connaissez pas Skylander, ça fait longtemps que vous dormez en dessous d'une roche. Moi, un de mes jeux préféré qui a sorti du studio, puis je sais qu'il y en a plein d'autres, mais un jeu que j'ai vraiment accroché dessus, c'était Spider-Man Shattered Dimensions. J'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Tout ce que vous avez fait là-dedans, c'était juste comme épique, là. J'ai dévoré ce jeu-là. Je pense que je l'ai fini en 2 jours parce que j'avais trop hâte de passer à travers l'histoire. C'était vraiment merveilleux. Comment est-ce qu'on fait pour dealer avec une franchise comme ça? Je veux dire, il y a des attentes, c'est certain. Surtout qu'on met, tu sais, un gros nom sur une franchise de jeu, il y a des attentes des fans du personnage. C'est comme un peu, tu sais, les jeux de Superman à date qui ont jamais été à la hauteur sur à peu près rien qui a été fait comme console ou peu importe. Comment qu'on approche ça, mettons, tu sais, Activision vous approche, je dis, bon, mais vous allez faire, tu sais, voudriez-vous faire le prochain Spider-Man pour nous autres? Comment ça se présente à vous autres, ces projets-là?
Bon, il faut comprendre que lorsque Binox était acquis par Activision et donc devenu un studio parmi les autres studios d'Activision, nous, on a bien sûr des directeurs de studio qui se rencontrent chez Activision fréquemment pour discuter des projets et il y a des échanges, des fois. Spider-Man, précédemment, on se souviendra que d'autres studios ont travaillé là-dessus chez Activision comme Neversoft, comme Treyarch, mais l'un des derniers jeux sur lequel Treyarch avait travaillé, qui était Spider-Man 3. C'était leur dernier Spider-Man. Après, ils sont passés du côté de la franchise Call of Duty. Donc, il y avait une opportunité de travailler sur la franchise Spider-Man pour un autre studio. Mm-hmm. Et nous, on était occupés sur d'autres projets. On venait de faire plusieurs projets en collaboration avec DreamWorks. Le partenaire avec DreamWorks tirait à sa fin. Et donc, il y avait une opportunité pour nous de se placer. Et c'est arrivé vraiment comme ça, en disant, écoutez, vous pourriez faire un jeu de Spider-Man. Donc, à vous de nous proposer des concepts. Et là, ce qu'on a fait, nous, comme studio, c'est qu'on s'est arrêté. On a pris une pause d'une semaine pour jouer à des jeux de Spider-Man, écouter les comics, les films, se renseigner. Puis là, on a découvert qu'il y avait pas un seul univers de Spider-Man, mais plusieurs. Il y avait Amazing, Ultimate, 2099, Noir, même Zombie, il y en avait plein. Et certains disaient, hey, ça serait cool de faire un jeu de Spider-Man noir avec de la furtivité. Et ça, c'était juste avant qu'ils annoncent Batman Arkham Asylum, donc on ne savait pas que ça s'en venait. Okay. Et là, quelqu'un dit ça, quelqu'un d'autre dit, non, en 2099, dans le futur, avec des gratte-ciels immenses, ça serait cool. Et quelqu'un est allé dire, pourquoi on ne ferait pas tout ça? Et là, on l'a dit, t'es fou. Mais éventuellement, c'est devenu une idée concrète en disant, pourquoi pas proposer un jeu dans lequel il y a quatre héros différents qui, à travers une histoire rocambolesque, comme on en retrouve dans les comics généralement, se retrouvent unis. Et ça permettrait de proposer une expérience différente, une réalisation visuelle, une direction artistique différente. Et c'est comme ça qu'est né un peu le concept de base. Puis après, ça a été de segmenter le studio en quatre équipes, chaque équipe travaillant sur une thématique. Même, petit secret, à une certaine époque, il y avait cinq thématiques en développement, dont une qui était zombie, Spider-Man. On voulait faire quelque chose avec ça, mais on s'est rendu compte éventuellement en analysant la structure au niveau légal qu'on n'avait pas les droits sur cet univers-là. Faut comprendre que quand on travaille avec une compagnie en collaboration qui a une licence comme Marvel, on va avoir un cadre qui va dire, écoutez, vous avez le droit à ces personnages-là, à ces univers-là. Ce personnage-là, vous pouvez le faire jouable. Celui-là, c'est juste des caméos. Donc, c'est vraiment des listes très complexes. Ça explique des fois pourquoi si on regarde sur une très, très longue période, qu'il y ait une certaine redondance. Par exemple, Electro était dans plusieurs jeux de Spider-Man. Il y a une raison pour ça, c'est que ça fait partie de la licence. C'est un personnage qu'on peut utiliser et d'autres, on ne peut pas les utiliser. Okay. Puis après, en ayant chacun quatre thématiques très claires, ça permettait de faire des équipes. Une équipe sur Ultimate. Moi, j'étais sur l'équipe Ultimate. Donc, on avait à faire des pitchs, ce qu'on appelle dans notre jargon des one-pagers, donc des documents d'une page où on dit, moi, je ferais un niveau avec Electro qui attaque une centrale hydroélectrique. J'aurais ça comme ennemi. T'sais, un genre de portrait assez sommaire pour donner aux clients l'idée générale de l'intention. Et de là, après ça, naît la période de conception où l'on doit faire, bien sûr, le niveau, développer les ennemis, les boss, et on avance dans la production de cette façon-là. Puis moi, je veux dire, j'avais eu comme j'étais sur Ultimate, ça a été, on est travaillé sur Electro, après ça, on est passé sur Deadpool, et après, on est passé sur Carnage. Et donc, on avait ces trois niveaux-là, ces trois univers avec lesquels on jonglait, on venait des fois corriger des trucs, parce que c'est certain que lorsqu'on crée un jeu sur une longue période de temps, on a tendance à vouloir revenir travailler ce qu'on a fait au début, parce qu'on devient meilleur progressivement avec notre outil, avec nos mécaniques de jeu, et là, on veut revisiter ce qu'on a fait précédemment. Donc, c'est certain que globalement, j'ai travaillé plus sur le niveau d'Electro que sur celui de Carnage, parce que Carnage, c'était à la fin, puis on était bien rodé comme équipe, et ça allait très rondement.
OK. Fait que t'es toujours tenté, mais est-ce qu'à un moment donné, j'imagine pour vous autres, un jeu serait jamais fini s'il n'y avait pas de date de sortie annoncée. Je veux dire, vous êtes probablement, hyper perfectionniste, un peu comme ben du monde, puis il y a certains jobs où être perfectionniste, c'est correct parce que t'as le temps de fignoler tes choses, mais à un moment donné, il faut probablement lâcher prise. Comme tu dis, à un moment donné, ça va être ça, ça va être ça, puis même si on n'est pas 100% satisfait de ce que c'est, ça va être ça quand même parce que le temps nous manque puis il faut passer à d'autres choses, j'imagine.
Oui, tout à fait. Puis je veux dire, c'est effectivement, les jeunes designers ont souvent cette difficulté-là de lâcher prise parce qu'ils veulent peaufiner au maximum leur travail. Mais tous les jeux ont une date de sortie. Très rares sont les compagnies qui peuvent reporter une date de sortie pendant des décennies. Il y en a peu. Souvent, les gens vont dire, ah oui, mais mettons quelqu'un qui fait un jeu lié à un film, comme The Amazing Spider-Man qui était lié à un film, là, tu as un cadre à respecter, mais en réalité, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent présentement cet automne parce qu'on est au quatrième trimestre de l'année puis qu'il faut que le jeu sorte au quatrième trimestre de l'année fiscale. Donc, il y a des contraintes. Certains, des fois, vont des compagnies, il y en a qui prennent plus de risques que d'autres en reportant des jeux plus tard. Puis des fois, ils font aussi parce que, bon, il y a de la concurrence qui est arrivée. T'sais. Le E3, on se le cachera pas, hein, c'est une belle grosse arène où les gens se regardent et s'étudient. On voit qu'est-ce qui ressort d'intéressant. Et là, on fait, oh, tel jeu s'en vient. On va peut-être repousser le nôtre parce que c'est semblable ou c'est pas au même niveau. On va le repousser. Vous verrez, si vous analysez l'actualité des... C'est de l'automne, juste avant, après le 3, là. C'est des reports à 2015, généralement, qu'on voit très souvent parce que on peut pas, tout peut pas se vendre à l'automne là, dans notre industrie, même si tout le monde veut cette énorme part du gâteau qu'est l'automne. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, malheureusement. Donc, il faut des fois reporter ça au printemps parce qu'il y a des gens qui achètent des jeux au printemps quand même, bien sûr.
Bon, ouais, il y a des gens qui achètent à l'année longue maintenant, puis c'est puis un théoriquement un bon jeu, un jeu que les gens attendent, va se vendre à peu près n'importe quand est-ce qu'il va sortir là, c'est pas des jeux plus obscurs, c'est peut-être un peu plus dur, surtout s'il sort en deux gros jeux, en deux gros titres. Mais tu sais comme sortir, je sais pas, tu sors un jeu la même semaine qu'un Call of Duty, il y a des chances que ton jeu se vende un peu moins, à moins que ce soit une hyper grosse franchise là. Mais normalement les dates sont peut-être vérifiées un peu pour pas tu sais se planter puis ramasser les restes que la grosse franchise va ramasser elle quand elle va sortir. Mais tu sais, si on revient mettons à Spider-Man, parce que c'est une licence qui est intéressante parce que vous aviez deux probablement deux clients à qui plaire. Vous aviez Activision qui probablement fallait comme si tu disais ton pitch de vente, fallait que tu le fasses à Activision. Mais est-ce que Marvel était là puis vous regardait en disant ben faut donner notre accord aussi à ce que vous allez faire, ou c'était vraiment Activision qui avait négocié déjà avec Marvel puis qui savait où est-ce que ça s'en allait, ou vous avez travaillé avec des artistes de chez Marvel, comment ça s'est passé?
Marvel a bien sûr une surveillance étroite du projet et va des fois demander des changements, des rectifications pour que ça soit conforme un peu à la continuité, à l'univers. Par exemple, juste dans l'introduction, dans le tutoriel du jeu de Shattered Dimension, où on a introduit les quatre protagonistes, on donne des pouvoirs, par exemple, à Spider-Man noir qu'il n'a pas dans la BD. T'sais, dans la BD, on le voit pas faire certaines actions. Et là, mais pour les besoins du jeu, on voulait qu'il puisse faire, tu sais, qu'il pouvait par exemple crawler sur les murs, utiliser un petit peu de web swing, tu sais, il y avait quand même un minimum qu'on voulait faire. Et ça, ben, Marvel, pour que ça passe avec eux, fallait qu'on le justifie narrativement. Donc, c'est pour cette raison-là que par exemple, t'as Madame Web, qui est un des personnages qui lie un peu ces quatre univers-là, qui explique dans le tutoriel, ah oui, maintenant, je te donne ce pouvoir-là temporairement, Spider-Man noir. Donc, il y a toujours le moyen de justifier les choses, mais il faut le faire parce que faut respecter la licence. On peut pas faire n'importe quoi avec Spider-Man. Ça vient avec ses avantages et ses inconvénients, bien entendu. Puis, peu importe la licence, dans notre industrie, là, faut pas se le cacher, à peu près, les gens qui travaillent, généralement, c'est à 95% du temps, on travaille sur les idées des autres, que ce soit des licences externes ou des licences internes. Par exemple, Skylander, on travaille là-dessus chez nous, mais les gens qui ont l'idée originale, c'est Toys for Bob. Donc, on travaille un peu sur leurs idées. Puis ça, faut se faire à l'idée dans l'industrie que si on travaille sur les idées de quelqu'un d'autre, ben des fois, il va y avoir un processus de certification, de vérification pour s'assurer que, tu sais, l'univers reste cohérent.
Ouais, c'est des négociations aussi pour, tu sais, faire quelque chose avec un personnage qui n'était pas nécessairement prévu, mais c'est une super bonne idée ou des choses comme ça, j'imagine.
Oui, tout
Une
à fait.
twist dans l'histoire ou des choses comme ça. Si on parle justement, on parlait de Skylander, ça vous est tombé, comment, c'est-tu de la même manière un peu que Spider-Man, ça a été des négociations chez Activision, puis ils vous ont dit, ben, parce que vous avez fait des packs d'aventure, des battle packs, des choses comme ça, puis vous avez créer certains niveaux dans le jeu principal aussi, comment ça s'est passé?
Il faut dire qu'initialement, bon, Binox, avant de développer des jeux originaux, était reconnu comme étant une compagnie de co-développement. On était spécialisé dans la conversion de jeux. On adaptait des jeux d'une plateforme à une autre, donc des jeux existants. Donc ça nous a permis de développer une robuste expertise en programmation. On connaissait les différents outils des autres studios, les différents engins. Donc on avait vraiment une notion assez poussée de ce côté-là et ça nous a permis de développer des beaux talents de programmeurs. Donc ça nous a donné une réputation. Et aussi, on a fait du co-développement plus actif. Exemple, on avait travaillé, par exemple, sur James Bond, Quantum of Solace, avec, bien sûr, le studio Treyarch, qui lui s'occupait de la version 360 PS3. Nous, on s'était occupé de la version Wii PC. Il y avait du contenu qui était semblable, mais aussi du contenu qui était exclusif. Donc, c'était une expérience avec laquelle ça a été chaudement applaudi chez Activision. On a fait une bonne collaboration. Okay. Même chose sur la franchise Guitar Hero. Donc, on avait développé cette historique-là avec Activision de bons partenaires. Et là, quand est arrivée la franchise Calendar, il faut dire que ça a quand même été une surprise, le succès. Le premier jeu a vendu très bien, mais Giants, le second, a vendu vraiment de manière incroyable, a permis d'atteindre le milliard de revenus, ce qui est incroyable pour toute franchise de jeux vidéo. Mm-hmm. Et donc, pendant que Giants était en développement, Vicarious Vision, eux, développaient Swapforce, qui allait être le troisième jeu, pour qu'on puisse alterner les studios au niveau des franchises, comme par exemple, on le fait avec Call of Duty, c'est des studios alternatifs. Trois studios maintenant qui se passent la balle à tous les trois ans. Scalander, c'est à tous les deux ans actuellement. Okay. Et donc, Vicarious Vision, eux autres, dans leur mandat, c'était donc de faire le jeu Swapforce, de prévoir l'arrivée d'une nouvelle génération, donc Wii U, Xbox One, PS4, et donc de moins se préoccuper de la précédente version, même si Xbox 360 et PS3 allaient être des plateformes importantes. Il s'était dit que peut-être la Wii, on pouvait ne pas faire cette version-là. Mais, oh, surprise, quand Giants est sorti, la version Wii a généré plus de 50% des revenus. Donc là, la Wii était clairement une plateforme intéressante pour cette franchise-là. Et donc, ça prenait une version Wii de Swapforce absolument. Mm-hmm. Et là, ben, Activision s'est retourné vers nous en disant, écoutez, vous êtes des experts en conversion, vous êtes des bons partenaires de co-développement, pourriez-vous prendre la technologie de Vicarious Vision et de faire en sorte que le jeu soit disponible sur Wii, donc d'adapter leur engin, développer des features, donc des aspects de leur engin. Mm-hmm. Et donc, on s'est lancé dans cette mission-là. Sauf que le mandat s'est rapidement élargi. On est devenu un partenaire qui a eu d'autres mandats parce que c'était très ambitieux, Swapforce. Déjà, le concept de pouvoir swapper les personnages, ça crée 256 possibilités. C'est plus lourd à supporter, c'est plus complexe à tester.
Ouais, ça commence à être compliqué.
Compliqué. Donc là, ben, ils ont dit, écoutez, pourriez-vous prendre ce mandat-là supplémentaire, vous occuper des Adventure Packs, qui sont des niveaux totalement séparés du jeu, vendus séparément, c'est du DLC physique finalement. Ouais. On a pris le mandat de faire les deux DLC. On a fait également les arènes de combat, parce que là, il y avait un mode multijoueur, donc on s'est occupé de tout ce qui est PVP, PVE, ces arènes de combat-là, avec les packs aussi, les battle packs qui étaient aussi vendus séparément. Et ça continue de s'élargir. Donc après, ça a été, écoutez, on a des missions spéciales dans le jeu, des hero missions. Pourriez-vous vous occuper de faire ces missions-là en design? Après, ça a été, écoutez, on a tous les personnages des deux précédents jeux. Il y en a 48 qui sont faits avec la technologie de Toys for Bob. Nous, on a une autre technologie. Vous êtes bon en conversion. Pourriez-vous les adapter pour qu'ils fonctionnent dans notre jeu pour qu'on puisse supporter tous les jouets. Et donc, tu sais, c'est ça, le mandat est, au départ, on faisait juste la version Wii, mais après, on a fait pratiquement la moitié du jeu en co-développement avec eux. Et ça nous a permis vraiment de mettre vraiment les pieds solidement dans la franchise Calendar. Et c'est pour cette raison qu'encore cette année, Trap Team sort au mois d'octobre. On a fortement collaboré au développement de ce jeu-là avec cette fois-ci Toys for Bob, qui était le développeur principal.
On peut en parler un peu de Trap Team ou citer?
Oui. Non, oui, on peut très bien en parler.
Ça s'en va vers quoi, là? Je sais, nous autres, chez nous, on a les trois premiers. Mon gars a joué, mais secrètement, des fois, moi puis ma femme, on prend chacun une manette, puis on joue à Skylander pareil. Parce que c'est le fun pour tout le monde. Puis ce que j'ai aimé dans Swapforce, c'est qu'ils ont commencé à les faire sauter, ce qui était un manque dans Giants, puis dans le premier Skylander. Là, ça amène une nouvelle mécanique. Tu peux sauter, faire des choses comme ça. Y a-t-il quelque chose de nouveau, des nouveaux features qu'on va voir dans Trap Team, à part le fait de pouvoir capturer des personnages, des choses comme ça? Y a-t-il des nouvelles mécaniques qui s'en viennent aussi? Tu peux-tu en parler? Tu peux-tu pas en parler?
Oui, alors bon, premièrement, ce projet-là, il est assez colossal parce que bon, le jeu sort sur toutes les plateformes, c'est-à-dire Wii, Wii U, 360, Xbox One, PS3, PS4, tablette et 3DS aussi. Donc, ça fait beaucoup de plateformes. Ça implique donc les trois studios, que ce soit nous, Binox, Toys for Bob et Vicarious Vision, on a mis la main à la pâte. Okay. Oui, cette année, c'est vrai qu'au niveau du message marketing, quand tu énormément de contenu, il faut quand même que tu trouves une direction assez claire pour tout le monde. Et oui, la notion de capturer des vilains est devenue ce qui était le plus clair à proposer aux gens. Et donc, c'était un peu de renverser l'expérience précédente qui était on incarne des personnages qui sont dans la vraie vie des figurines et là, bang, ils deviennent des personnages jouables. Et là, c'est l'inverse, c'est qu'on a des personnages jouables dans le jeu qui sont des vilains, qu'on peut capturer dans des cristaux qu'on met sur le portail. Et là, bang, ils arrivent dans le portail. Il y a un speaker sur le portail. On les entend parler. Donc, ça crie. Bon, ça les rend vivants dans le salon. Ils vont discuter avec nous. Ils vont mettre sorte de commentaires. Et là, nous, on peut les utiliser. On les a transformés. Ils étaient méchants. Ils deviennent bons maintenant sous notre influence magnanime, bien entendu.
Okay.
Et donc, on peut les relâcher dans le monde de ce calendrier. Donc, ça fait que non seulement on a des personnages, tous les personnages qu'on a peuvent jouer encore, bien entendu, mais en plus de ça, il y a des nouveaux personnages, on les a appelés les Trap Masters.
Mm-hmm.
C'est des personnages qui, tout le monde peut attraper là, des vilains, mais les Trap Masters ont quand même des capacités plus intéressantes, sont très forts avec, bien sûr, des armes en cristal, parce que tous les petits cristaux sont en lien là-dedans, donc ils peuvent briser des portes de cristal, il y a différentes mécaniques liées à ça. Mais il y a aussi des nouveaux personnages comme les autres Scalanders qui sont de la série, certains qui reviennent faire un tour. Il y a même les Mini qui sont des versions réduites de personnages qui ont les mêmes pouvoirs, qui font une apparition. Ils étaient déjà un peu présents, les Mini, plus aux États-Unis parce que Frito-Lay avait fait des concours avec les deux premiers jeux de Scalander où l'on pouvait gagner des petites versions de personnages de Scalander.
Okay.
Mais ils faisaient pas grand-chose. Ils étaient juste, bon, ils nous suivaient comme un petit animal, mais ils faisaient rien. Et là, ben, en réalité, tous les Mini qui existaient, les 8 qui ont été lancés précédemment, à ceux-là se joignent 8 nouveaux. Et donc, on a 16 mini-personnages qui peuvent cette fois-ci faire à peu près la même chose que les plus grands personnages, mais évidemment, sont mini, donc sont très cute, sont très petits. Et là, ça s'ajoute aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup de possibilités. Ça fait un jeu très riche là, en termes de contenu. On peut jouer de différentes manières à l'histoire principale. On a accès quand même avec le pack de base à c'est la majorité du contenu. On peut compléter l'aventure avec les deux figurines qui sont comprises ainsi que les deux cristaux. On peut la compléter, mais en ayant une collection plus vaste, ben à ce moment-là, on a accès à du contenu supplémentaire. Donc, bien sûr, toutes les portes élémentaires qui donnent accès à des niveaux, des sous-niveaux sont présents. Et aussi, s'ajoute à ça, cette année, une des choses que nous, on a développé principalement sur la version, parce que nous, on était responsable de prendre la version. Tosso Bob travaillait principalement sur Wii 360 et PS3. Et nous, on a fait la version Xbox One, Wii U et PS4. Donc, okay. On a mis des graphiques au goût du jour. Mais une des choses en termes de contenu qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un Horde Mode qui s'appelle Chaos Doom Challenge ou Challenge of Doom. C'est un peu un mode Horde où on a 100 vagues d'ennemis qui viennent prendre d'assaut une boîte qui contient un vilain. Donc, s'ils détruisent la boîte, le vilain... Et il ressort de la boîte et il est décuplé. C'est un giga vilain qui vient nous attaquer. Donc là, on a vraiment de la difficulté avec lui. Et ce qu'on peut faire pour se défendre, en plus de les attaquer seul ou avec un ami, ces ennemis-là, c'est aussi de construire des tours. Et ces tours-là de défense, il y en a une pour chaque élément.
Okay.
Et elle a un comportement un petit peu différent. Par exemple, pour l'élément de la mort, c'est une main squelettique qui lance des projectiles. Et ce qui arrive, c'est que si après une vague d'ennemis, on a conservé une tour, elle reste là et elle est upgradée, donc elle est mise à jour au deuxième niveau. Et après ça, au troisième niveau, elle devient plus puissante. Donc, au fur et à mesure qu'on construit des tours, dans les phases de repos et de construction, on peut vraiment se développer une stratégie de... je dirais, de protection.
Okay.
Puis, ben après, on, je veux dire, si on est rendu avec, mettons, 4 tours de niveau 3 qui font vraiment un beau carnage, ben là, on veut vraiment les protéger. Parce que lorsque notre calendrier est proche d'une tour, il va lui redonner de l'énergie. Donc, on a intérêt à une petite gestion. Donc, ça va être quelque chose de différent. Parce que précédemment, dans les jeux, il y avait eu beaucoup du PVP, dont du 1 contre 1. Ça, c'est pas quelque chose qui était nécessairement si populaire que ça. Après, dans Sword Force, il y a eu plus de puis dans Giants, il y a eu plus de PVE, donc joueurs versus des vagues d'ennemis. Ça a été plus apprécié. Et là, donc, on a poussé ça un peu plus loin avec un mode vraiment dédié qui a vraiment, bon, vraiment beaucoup de valeur de rejouabilité. Je peux vous dire que si vous jouez à ce mode-là, au mode de difficulté le plus élevé, et que vous parvenez à vous rendre à la 100e vague, ben vous êtes fort. Parce que c'est vraiment très difficile. Ça a été balancé pour que les gens qui ont une grande collection peuvent vraiment l'exploiter au plein potentiel parce qu'ils vont mourir souvent.
Ils vont avoir besoin de changer de petit bonhomme sur le portail de temps en temps.
Oui.
Tu parlais, tu as mentionné une version tablette. On parle-tu d'un jeu plein tablette? Parce que présentement, sur mon iPad, j'ai Scalander Lost Island, puis il y a 3 jeux de Scalander qui existent sur iPad. Est-ce que c'est quelque chose, c'est vraiment le même jeu qui va être sur console, qui va apparaître sur iPad?
C'est le Total Package. C'est quand même un tour de force. C'est Vicarious Visions qui travaille sur la version tablette, là, qui ont réussi à faire. Donc, le jeu intégral se retrouve sur tablette. Il va être vendu en magasin avec un portail Bluetooth, avec toute tout le support des cristaux et des autres personnages. Donc, ça a été un gros défi parce qu'il faut quand même comprendre que sur le App Store, on est limité à 2 gigaoctets par application.
Ouais, c'est ça.
Puis le jeu, ben, il prend plus de place. Donc, il y a un travail de gestion des ressources en fonction de, par exemple, on sait que rares sont les gens qui ont tous les personnages. On est capable d'établir une moyenne, donc on ne va pas charger tous les personnages sur la tablette. Il va avoir, c'est, ça a été un travail de subdivision beaucoup là, pour s'assurer que le 2 gigaoctets est utilisé vraiment au plein potentiel de ce que le joueur utilise comme contenu. Donc, oui, il y a des téléchargements des fois en arrière-plan qui vont se faire pour, tu sais, ajouter, enlever du contenu, mais c'est un beau tour de force. Nous, en contrepartie, on a fait la version 3DS, qui, elle, est totalement différente de la version tablette et la version console de maison, parce que c'est un autre marché, c'est un autre public, la 3DS, et donc la décision a été prise de ne pas avoir de cristaux. De gestion de cristaux, parce que sur la 3DS, on a quelque chose qu'on n'a pas généralement sur d'autres consoles, qui est un deuxième écran. Et donc, nous, quand on capture un vilain dans la version 3DS, il va se retrouver sur l'écran du bas. On va le voir comme dans sa cage, dans sa prison. On va pouvoir interagir avec lui, le chatouiller, le faire spinner pour l'étourdir. Donc, on va avoir des petites interactions avec lui. Et donc, ça nécessitait pas d'avoir de cristaux. Mais ça, c'est le genre de discussion qu'il y a eu pendant le développement. On se demandait, bon, les gens ont une 3DS. Les gens qui ont joué au jeu précédent étaient habitués de utiliser le portail pour scanner leurs figurines et les stocker et pouvoir changer, tu sais, sur la route, de ne pas avoir besoin du portail, les figurines pour jouer, là.
Ouais, c'est ça.
Et donc là, ça a été la voie qu'on a préconisée aussi pour les cristaux. Puis ça, ben, on a pu à ce moment-là créer une expérience qui est totalement différente parce qu'il n'y a aucun niveau semblable dans la version 3DS que la version console. Donc c'est une expérience à part dans laquelle on a pu mettre du contenu exclusif, des vilains exclusifs, bien entendu, mais aussi des mécaniques de jeu qui utilisent la 3DS. Juste la capture, c'est une mécanique tactile, bien entendu, pour capturer des vilains, pour les étourdir et les aspirer dans un vortex sur l'écran du bas. Mais également, il y a des mini-jeux qu'on a développés qui sont seulement sur 3DS. Alors, ça fait qu'on a vraiment bien les pieds dans la franchise Calendar. Et c'est le fun parce que on a travaillé beaucoup sur du Spider-Man, qui est du jeu un peu plus réaliste dans les années précédentes. Puis, mais au début, dans les premiers jeux sur lesquels on a travaillé, c'était avec DreamWorks. Puis c'était des jeux quand même plus fantaisistes. Puis c'était quelque chose qu'on aimait bien faire. Puis là, de replonger dans un univers fantaisiste, c'est toujours le fun de pouvoir alterner. Ça change un peu le travail. Parce que faire du Spider-Man pendant 20 ans, je ne sais pas, tu sais, à quel point ça motiverait tout le monde.
Ouais, ça doit donner blasé à un moment donné, puis c'est comme, ah, ok, un autre Spider-Man, ah, ok, un autre Spider-Man, tu sais. Ouais, tandis que là, avoir la chance de travailler sur des choses différentes, c'est super intéressant. Puis ça doit être aussi, tu sais, genre, tu dois être fier d'avoir travaillé à aider une franchise à devenir si gigantesque qu'elle est aujourd'hui, là.
Oui, surtout que là, en plus, une chose que j'ai oublié de mentionner, mais cette fois-ci, on a aussi fait des jouets, fabriqué vraiment des jouets. Comme d'autres studios d'action maintenant, on a une imprimante 3D qui imprime en dans de 5 à 6 heures une figurine Skylander. Et ça nous a permis d'apprendre un tout autre travail parce que créer des jouets, c'est pas la même chose que créer des jeux vidéo. Il y a toutes sortes de considérations parce que, bon, ces figurines-là sont, bon, vous vous en douterez, fabriquées en Chine par après, sont peintes à la main. Donc, il y a toutes sortes de processus plein de compagnies qui entrent en ligne de compte. On a des collègues qui se sont rendus en Chine pour visiter les différentes compagnies avec lesquelles on travaille. Donc, c'est vraiment un travail à la base, nous, de création, mais où on doit se dire, OK, bon, ce personnage-là qu'on crée, par exemple, on a créé un nouveau personnage qui s'appelle Lobstar, qui est un homard qui a des étoiles dans les mains. Donc, vous comprenez le jeu de mots.
J'aurais dû allumer, ouais.
Cette franchise-là est pleine de beaux petits jeux de mots le fun. Ça me fait toujours sourire. Et donc, ce personnage-là, des étoiles, c'est quand même piquant. Un homard, ça dépique aussi. Il y a quand même des considérations sur, bon, ça, est-ce que c'est trop piquant pour le public cible? Est-ce que ça peut être dangereux? Donc, il y a des tests qui doivent être faits. Est-ce que ça rentre dans la boîte qui est prévue? Parce que la boîte en plastique dans laquelle se trouve le jouet, il y a des limites limitations au niveau de la pose qu'on peut donner aux jouets pour que ça rentre correctement. Donc, toutes sortes de considérations qu'on n'a pas en faisant des jeux vidéo habituellement. Et là, ça nous a ouvert cet univers-là qui est très intéressant. Juste la peinture, il faut vraiment s'assurer, bon, quand on... on appelle ça des paint jobs, mais chaque fois qu'un travailleur va prendre dans l'usine là-bas en Chine, va prendre sa main pour apposer une couleur sur la figurine, mais c'est chaque geste est calculé et comptabilisé. Et donc, il faut voir comment on peut calibrer les couleurs, équilibrer ça pour que ce soit le plus rentable possible, parce qu'à quelque part, sauver 3 sous sur la figurine en production, ben c'est 3 sous qui s'en vont dans les poches d'Activision et ses actionnaires par après, et que ça nous revient des fois en bonus par après. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de considérations autres qu'on n'a pas absolument dans le jeu vidéo.
Non, c'est ça, parce que 3 sous par figurine, quand tu crées, je sais pas, des millions de figurines, ça paraît au bout de la ligne.
Oui, parce que quoi, ils sont rendus à 150 millions et plus, donc ça paraît.
c'est peu dire. Je pense qu'on s'est assez étendu sur le prochain Skylander. ça a presque été une section au plan. Mais ça vaut à peine, c'est un jeu qui va... Ça va vendre, là. Je sais pas si vous le savez à la maison, là, mais je pense que ça va être un moyen succès. Fait que c'est pas quelque chose. Soyez pas surpris.
Non, mais il faut se croiser les doigts parce que les enfants ne sont pas un public fidèle. Les modes pour les enfants, ça évolue, ça change. Donc, faut pas les considérer comme conquis tout le temps. C'est pour ça que un des piliers de cette franchise-là, c'est l'innovation. Il faut toujours, à chaque projet, trouver une twist innovante pour que le public se renouvelle en quelque sorte.
Ouais, non, c'est sûr. Il faut garder le public intéressé. Puis, je pense, à date, ils ont bien réussi. Fait qu'il faut juste pas tomber dans l'espèce de mode on va sortir un jeu pour sortir un jeu puis on verra ce que ça donne. Tu sais, à date, ils ont réussi à se renouveler à chaque fois des nouveaux personnages, les géants, après ça a été les personnes swap, puis là ça va être les Trapmaster. Fait que tu sais, garder ça frais puis intéressant, puis ça peut survivre longtemps. Là.
Ouais.
Donc on va y aller un peu plus personnel. On va aller dans ton passé de gamer. T'as commencé, je regardais ça puis c'est drôle parce qu'on s'est parlé un peu sur Twitter avant, puis tu m'as envoyé un petit PowerPoint que t'as fait pour te présenter à ton équipe chez Binox, puis il y a quelque chose qui s'appelle le Digital Derby Auto Raceway, puis c'est un bidule en plastique qui, malgré son nom, n'a absolument rien de digital.
Non.
Puis c'est un jeu de course avec un volant en plastique, une auto en plastique avec une espèce de plastique qui roulait en dessous avec des autos pis tout ça. Fait que t'as commencé à peu près sur le même jeu que moi. T'as-tu joué à ça beaucoup ou...
Ben, moi, je me rappelle d'avoir joué à ça quand même assez pour gruger des batteries. C'était bon, un jeu électromécanique. Comme tu dis, c'est pas vraiment un jeu électronique, mais c'était nouveau à l'époque, là. C'était une expérience interactive comme on n'en voyait pas. Il y avait réellement une détection de collision du véhicule qu'on contrôlait avec les autres. Et donc, parce qu'il faut comprendre qu'on pouvait faire marche arrière, marche avant. Mm-hmm. Et là, on pouvait vraiment éviter le trafic. Puis il y avait un compteur de tours. Donc, c'était, tu sais, avec des éléments visuels, comme on en retrouve aujourd'hui dans les jeux. Tu sais, on a une interface qu'on la voyait, elle était mécanique. Puis c'était les débuts, hein. C'était avant les jeux électroniques. Puis moi, ça a été ma... Je pense que c'est là que j'ai eu la piqûre, que j'ai vu que j'aimais bien ça, ce genre de jeu-là. Puis par après, j'ai eu d'autres jeux dans ce genre, mais j'ai eu des collègues, des amis, des voisins qui avaient des jeux, les premiers jeux électroniques là, comme qui étaient basés souvent sur des sports, comme le baseball, par exemple. Mattel a fait beaucoup de petits jeux avec juste des petites lumières qui s'allumaient pour indiquer qu'il y avait un joueur au deuxième but, et ainsi de suite. Là. Donc, mm-hmm. des petits jeux simples. Donc, j'ai découvert tout cet univers-là. Puis ça m'a vraiment frappé. Et de là est né après ça tout mon intérêt pour tout ce qui a suivi dans cette industrie-là, que ce soit les jeux électroniques, les jeux des consoles, les ordinateurs, tous les dérivés. Parce que moi, à la base, c'est vraiment l'action de jouer qui m'intéresse le plus. C'est l'action de jouer et non pas la résultante de « bon, j'ai gagné une partie » ou « j'ai perdu une partie ». C'est vraiment le jouer, ça m'a toujours le plus intéressé.
Je regarde aussi, t'as ajouté une slide dans ton PowerPoint qui parle jeux vidéo à la télévision. Puis là, tu dois parler de le vieux système qu'il y avait. Puis là, la plupart du monde qui écoute auront aucune idée de quoi qu'on parle.
Ouais.
Mais dans le temps, il me semble que c'était à partir de minuit le soir ou c'était 10h, 11h le soir, il y avait un poste, puis ça devait être sur Vidéotron.
Oui, à Québec, ça ne s'appelait pas Vidéotron à l'époque. Là. C'était Télécom 9, je crois, ou Québec.com. En tout cas, il y avait une compagnie de câbles, finalement, qui, eux, avaient pris un poste de télévision. Ils avaient, dans le fond, relié un ordinateur qui était probablement, je pense, j'avais lu à cette époque, c'était un Apple II, qui était relié à un modem, qui lui était lié après un appareil qui transférait les ondes, justement, du modem en ondes, en impulsion pour un téléphone, pour un mm-hmm. téléphone touch-tone, qui était une nouvelle technologie. Avant, on n'avait pas les touch-tones.
Avant, c'était à roulette.
À roulette, pulse. Et donc, une personne qui était à la maison pouvait appeler ce téléphone-là et se connecter donc au serveur à distance. Quand on parle aujourd'hui de jeux, c'est comme Sony qui vient de lancer sa plateforme, où on peut jouer à des jeux qui sont sous des serveurs. C'est exactement ça, c'est le même principe. Mais à ouais. l'époque, c'était une personne à la maison qui appelle à ce téléphone-là et qui peut jouer. Et là, tous les autres qui regardent ce poste-là, ben, ils voient la personne jouer. Ils voient qu'il y a une personne qui joue à un jeu comme Defender, par exemple. Ou des fois, ils voyaient un maudit fatigant comme moi qui appelait pour jouer au jeu d'échecs, qui était le jeu Sargon. Et là, évidemment, la partie durait des heures, parce que c'était très long avec l'interface touch-tone, tu sais, un clavier, là, pensez-y, là, déplacer les pièces sur l'échiquier, c'était long. Tandis qu'un jeu comme d'action, comme Defender, en 3 minutes, on est mort, là, c'est fini, c'est beaucoup trop difficile.
On n'est pas capable de contrôler.
Non. Donc, ça a été quelque chose. Je me rappelle de m'être levé à 5 heures du matin là, pour pouvoir appeler, pour avoir la ligne, pour pouvoir jouer à mon jeu. Puis je pense que c'est là probablement que mes parents ont vu que ce serait peut-être le temps d'avoir un ordinateur dans la maison parce que ça devenait une passion là, déjà très jeune. Parce que c'était ça, on parle probablement, là, on est au début des années 80.
Ouais, ouais, je me rappelle avoir fait ça aussi. Puis appeler, puis appeler, puis la ligne t'occuper. Puis là, tu réessayes, puis là, tu rappelles. Puis là, tu réessayes, puis tu rappelles, puis ça finissait plus. Puis je me rappelle avoir eu la ligne une fois. Je pense que j'avais appelé pendant 3 heures avant d'avoir la ligne. Puis j'avais choisi de jouer au jeu qui ressemble à Defender. Puis j'étais mort en comme 30 secondes. Puis la ligne avait raccroché. Puis c'était comme « Donc! Trois heures pour ça! » Puis fait que je pense que c'est comme les dernières fois. Mais je regardais les gens jouer. C'était drôle. C'était la première fois que tu pouvais vraiment trouver quelqu'un poche, mais c'était vraiment difficile, c'était pas évident du tout, mais c'était intéressant comme technologie parce que justement tu jouais avec ton téléphone, puis là t'avais aucune instruction là. C'est quoi faut que je fasse pour monter le vaisseau en haut, c'est quoi faut que je fasse d'IS, c'est quoi pour tirer, puis souvent par le temps que tu trouves un peu c'était quel bouton fallait tu pèses, t'étais mort.
Ouais. Mais bon. Puis c'était quand même au moins intéressant de pouvoir jouer à ces jeux-là, de la maison, sans sortir, sans rien acheter. Ça, c'était quelque chose qui était très intéressant, mais c'était souvent des copies de jeux d'arcade qui étaient de bien meilleure qualité. Puis moi, les arcades, par après, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. J'avais des amis à l'école. On est plus à la fin du primaire, début du secondaire, où là, il y a des gens qui connaissent ça, les arcades, qui vont découvrir, tu sais, tous ces jeux-là. Le milieu des années 80, là, c'est l'âge d'or des arcades, où on a eu toutes les grandes franchises qui sont nées, mm-hmm. Pac-Man, Donkey Kong, Frogger, name it, là, c'est là que ça a été lancé. Je me rappelle même qu'une fois en voyage dans le fin fond de mon Italie natale, dans le fin fond du sud, où là, il y a presque rien à faire à part se prélasser au soleil ou aller cultiver les champs, là, il n'y a rien à faire. Il y avait un café dans le village, pas très loin d'où ma tante habitait, où il y avait une borne d'arcade du jeu Jungle King, qu'on a aussi connu sous le nom Jungle Hunt. Mm-hmm. C'est un jeu là, avec 4 tableaux, là, on est un peu comme Tarzan dans le premier tableau, après ça on va dans l'eau, on a des crocodiles, après ça on monte une colline, puis il y a des roches, puis à la fin, ben, on saute par-dessus 2 Zoulous, puis on sauve notre princesse, puis la titre. Tu sais, ça se joue en 2 minutes probablement, mais c'était très difficile, puis je me rappelle de m'être sauvé un matin pour aller jouer à ce jeu-là, je l'avais découvert, puis j'étais parti. Puis là, j'étais hypnotisé par la machine qui, ça coûtait, je pense, 100 lire jouer l'équivalent de 10 sous ici. Donc, je jouais. J'avais pris tout mon argent de poche pour jouer. Puis là, ben moi, j'étais pas là à la maison. Là. J'étais parti. Puis là, on me cherchait. Puis là, ça a été la panique. Où suis-je? Ai-je fait une fugue? J'étais en train de jouer à Jungle King. Puis je pense qu'encore une fois, là, mes parents ont pris des notes. On dit, ouais, lui, les jeux vidéo, c'est quelque chose qui le passionne probablement.
On devrait peut-être investir sur une console de jeu ou quelque chose comme ça pour pas qu'ils prennent l'avion pour un bateau pour les États-Unis pour aller jouer.
C'est là qu'ils m'ont offert ma première console de jeu électronique portable, parce que là, au moins, ils pouvaient me surveiller, parce que là, je n'avais, puis je pouvais me trimballer avec eux dans l'auto, en voyage, ou j'avais ma console électronique. Il y a plusieurs compagnies qui en ont fabriqué, là, avant que, il y a bien sûr Nintendo qui a fait les Game & Watch que j'ai un peu connu, mais moi, c'était le roi de la jungle. Ma sœur avait eu Monster Panic, qui était des petits jeux d'arcade, un seul tableau, mais qui était quand même très prenant, puis, moi, je me rappelle d'avoir joué quand même pas mal à ça, là, justement, durant ces périodes-là, justement.
Oui, il y a eu des versions qui étaient plates, un peu comme celle que tu as mis dans ton PowerPoint. C'était vraiment plat, ça ressemblait un peu à une 2DS peut-être, là.
Oui.
Mais le background, c'est-à-dire l'image de fond était toujours la même, d'une couleur différente. Puis là, tu avais ton personnage qui interagissait. Tout ce qui était méchant ou chose était rajouté après ça par-dessus à l'écran. Mais c'était de base, mais ça commençait à être plus intéressant que notre jeu de taux à roulette, là, que c'était juste gauche droite, là. C'était quand même intéressant. Mais après ça, il y avait pas. En tout cas, il y avait une compagnie qui avait sorti un Pac-Man. C'était vraiment comme une borne d'arcade qui était un peu dans le même principe. Il y avait eu Pac-Man, je pense qu'il y avait eu.
Oui, ça, si tu me rappelles justement ça, il y a eu une compagnie qui fabriquait des petites répliques de machines d'arcade qui étaient quand même peut-être, je sais pas, mettons, environ moins de 30 cm de haut, là.
Ouais.
Il y avait, bon, moi j'avais des amis qui avaient Pac-Man, qui avaient Frogger, qui avaient Galaxian,
Ouais, c'est
qui avaient
ça.
même Zaxxon. Et là, oui, ça, c'était très coûteux à l'époque, là. C'était très cher, je m'en souviens. J'avais pas demandé ça pour Noël parce que c'était trop cher. Puis je préférais avoir des blocs Lego, là, à ce moment-là. Puis je me rappelle avoir vu ça. Mais ça, c'était tout, dans le fond, des machines sur lesquelles on accédait à un seul jeu à la fois. Et ça commençait à être un problème. Je trouvais ça un peu tannant. Et c'est là, je pense, que l'arrivée de l'ordinateur est devenue vraiment très intéressante, parce que qui disait ordinateur disait plusieurs jeux, programmation et tout et tout. Puis nous, ben, le premier ordinateur que je me rappelle que ma famille a acheté, c'était un TRS-80 Color Computer, autrement appelé Coco.
Qui se vendait chez Radio Shack.
Qui s'appelle La Source, bien sûr, aujourd'hui.
Ouais,
Donc,
c'est
c'était
ça.
leur ordinateur maison. Ça coûtait 300 $. C'était, si vous voulez comparer, là, avec ce que vous avez aujourd'hui, peut-être dans votre poche, là, on parle de moins de 1 MHz de puissance de processeur et de 16 kilo-octets de mémoire. Donc, c'est extrêmement limité. Mais c'était pour moi formidable d'avoir accès à ça. J'avais quand même un peu de la chance aussi, parce que mon père était enseignant en informatique. Donc lui, l'informatique, ça l'intéressait déjà, ce qui était très cool. Dans le fond, il fait partie de... Tu sais, aujourd'hui, la part des parents sont des gens qui ont connu, ceux qui ont des enfants maintenant ont connu ça, l'informatique, ils savent ce que c'est, donc ils trouvent ça pour un cool. Maintenant, c'est normal d'avoir connu ça. Moi, à l'époque, j'étais quand même privilégié d'avoir, tu sais, un parent qui connaît ça, l'informatique, puis qui peut m'amener montrer des affaires, qui peut m'initier à ça. Il m'avait d'ailleurs appris de me remettre des jeux, parce que bien sûr, à cette époque-là, tout le monde copiait des jeux, hein, au niveau,
Oh oui.
je parle pas des gens, des individus, là, je parle des compagnies qui les fabriquaient, là. J'avais pas, moi, Pac-Man, j'avais Pac-Tac, j'avais pas Donkey Kong, j'avais Monkey King, j'avais pas Joust, j'avais Buzzard Bait, j'avais pas Pitfall, j'avais Trapfall, et ainsi de suite. J'ai quand même connu tous ces jeux-là d'arcade. Je savais que, tu sais, c'était une copie de tel jeu, puis je le voyais, mais au moins je pouvais jouer sur mon ordinateur. Et si ça faisait pas, bien, l'ordinateur était livré avec un beau manuel de programmation. Et là, j'ai pu donc apprendre un petit peu le basic. Je tripais pas trop, mais je trouvais ça le fun. Surtout qu'à l'époque, ils vendaient aussi des magazines où l'on avait des pages et des pages de code qu'on pouvait taper pour créer notre programme et donc avoir un jeu fonctionnel. Tiens, on investissait un 2-3 heures de rédaction pour pouvoir avoir un jeu qui était généralement poche.
Ouais.
Mais c'était quand même cool. On pouvait faire notre propre jeu. Puis à travers ça aussi, ben oui, bien sûr, j'ai découvert des jeux qui étaient des jeux originaux. Des jeux, moi, je me rappelle vraiment beaucoup d'un jeu qui s'appelle Phantom Slayer, qui, à mon avis, est l'ancêtre de tous les first-person shooters. C'était vraiment un jeu labyrinthique. Il y avait des fantômes qui nous pourchassaient avec un bruit vraiment très stressant. Il fallait les tirer. Puis ce qui m'avait marqué, c'est que ce jeu-là, comme j'ai joué beaucoup, j'ai souvent vu l'introduction. Puis dans l'introduction, ça disait A Game by Kenneth Kalish. Puis là, j'étais comme, hein, c'est qui ça? C'est qui? Il n'y avait pas Internet à l'époque pour aller sur Wikipédia le savoir, là. Donc, je n'avais pas c'était qui pendant. J'ai pas su c'était qui pendant très, très longtemps, finalement. Mais je me dis, il y a quelqu'un qui a fait ce jeu-là. Puis ça commençait à m'intriguer, cet aspect-là de OK, il y a des gens qui peut-être gagnent leur vie à faire ça. C'était pas encore, j'étais au secondaire, c'était pas encore nécessairement quelque chose que je me disais je peux faire ça, parce que il n'y avait pas de programme, à part sciences informatiques, il n'y avait rien, là, pour aller faire des jeux vidéo. Donc ça m'a ouvert, tu sais, ces univers-là. Puis après, ben, il y a eu d'autres ordinateurs qui se sont succédés, là, c'est sûr.
Comme le Apple II.
Oui, ben, dans les écoles au Québec, pour ceux qui ont à peu près mon âge dans la quarantaine, il y a plusieurs écoles qui ont pris la décision dans les années 90 d'acheter des ordinateurs Apple II. Ça a été au lieu du IBM qui était beaucoup plus coûteux. Ils ont décidé d'aller avec cette technologie-là. Donc, c'est pour ça qu'on a eu accès à beaucoup de ces ordinateurs-là. Ben, moi, évidemment, mon père, comme il était enseignant d'informatique, mais à un moment donné, il y avait des ordinateurs Apple II à l'école. J'allais voir ce que c'était lors des journées où je pouvais aller voir ce que faisait mon père, puis ça m'intéressait. Puis éventuellement, ben, il en a ramené un à la maison l'été, puis on pouvait jouer avec les différents programmes. C'est là que je me souviens d'avoir, je pense que c'est là que j'ai créé mon premier niveau, j'ai passé mon premier jeu. Le premier niveau que j'ai créé, c'était dans le jeu Load Runner, qui venait avec un éditeur de niveau. Puis j'ai fait de quoi de très juvénile, qui est d'écrire mes initiales avec des petits blocs, puis c'est mon niveau, donc de laisser ma signature. Puis après, le jeu que j'ai terminé en premier, que je me suis rendu jusqu'à la fin, qui avait quand même une certaine longueur, c'était Karateka, l'ancêtre de Prince of Persia. Et je me rappelle d'avoir eu une satisfaction, mon Dieu, j'ai vu tout le jeu complet. J'ai même découvert la fin alternative qui était si tu arrives pour sauver la princesse en position de combat, ben elle te donne un bon coup de l'échenol puis t'es mort.
Oui, je sais. J'ai fait la même chose la première fois que j'arrive pour sauver la fille. J'arrive envers elle en courant, toi.
Ouais,
Elle
puis
me
ça,
ramasse une claque, puis mon bonhomme meurt. C'est
c'était pas mal. C'était pas mal drôle, puis c'est drôle parce que, dans le fond, c'est un Easter egg, comme on en a aujourd'hui dans les jeux. Puis moi, je me souviens, sur Shattered Dimension, d'avoir volontairement mis des Easter eggs, par exemple, dans le niveau de Carnage, on a mis une prison, puis on a mis Deadpool Electro qui se lance la balle dans la prison. Tu sais, ça, c'est un Easter egg tout à fait niaiseux, mais qui a fait beaucoup de plaisir à toute l'équipe qu'on a fait, là.
Ouais, c'est sûr. Mais ouais, si tu me rappelles ça, Karateka, c'était vraiment spécial parce que fallait que tu recommences.
Oui,
Parce que t'étais mort.
exact.
Fait que la deuxième fois, t'arrivais pas en courant avant de la fille.
C'est exact.
Après ça, j'imagine t'as été dans les PC, les compatibles, parce que c'était même pas. Personne n'achetait des vrais IBM dans le temps. C'était tous des clones, un peu comme il y a eu des clones de Apple aussi.
Oui, ben, il faut dire que là, bon, on est à la fin des années 80. Les consoles de jeux, bon, moi, j'ai bien sûr eu des amis qui avaient des Atari 2100, qui ont eu des Intellivision, des ColecoVision, donc j'ai vu un peu ces jeux-là. Mais parce que j'avais eu très tôt un ordinateur et des ordinateurs, je trouvais ça plus intéressant, moi, personnellement, un ordinateur, parce que, bon, l'aspect programmation, l'aspect accès au contenu, puis après, éventuellement, il va y avoir les modems, les BBS qui vont arriver, tout ça. Ça, j'étais pas très tenté, tu sais, j'ai pas demandé, par exemple, une Nintendo pour Noël. Ça m'intéressait pas, même si dans ma famille, il y en a qui en avaient, ou des amis. Donc, j'ai été un pauvre. Certains m'ont dit, mon Dieu, pauvre toi, t'as pas eu de NES, de SNES et tout ça. Ben non, j'ai pas eu des consoles de cette génération-là, je dirais. J'ai plutôt opté pour un bon vieux PC avec un bel écran ambre qu'il fallait mettre par-dessus un protecteur tu sais, avec du plomb dedans là, parce que c'est peut-être dangereux les écrans cathodiques. Et je ne sais pas si ça a été dangereux, là. On va le savoir dans quelques années si je développe une maladie quelconque, là.
Il y a bien du monde qui vont en développer, c'est vrai.
Peut-être, tu sais, puis ça a été donc un beau PC. Puis là, ben, c'est là que j'ai découvert, bien sûr. Je pense que c'est pas mal là où j'ai ma période de plus jeu d'aventure, jeu de rôle, parce que c'était des genres qui étaient très populaires sur ordinateur, plus que les jeux d'action qui étaient moins présents. Aussi après, peut-être les jeux de stratégie à quelque part. Donc, ça m'a fait découvrir tous ces genres-là. Éventuellement, après, je suis revenu vers des consoles, je dirais peut-être plus. Quand bon, la PlayStation est arrivée, la Dreamcast, la Nintendo 64, tu sais, là, je me suis intéressé plus aux consoles parce que je trouvais qu'il y avait vraiment des jeux qu'on n'avait pas sur ordinateur, qui me manquaient, que je dis, ben là, j'aimerais ça, avoir un bon platformer, un bon jeu de plateforme, tu sais, sur PC, on avait Commander King, hein, Commander King qui était créé par la même gang qui a créé après ça Wolfenstein puis Doom, qui était un autre genre, mais c'était un peu poche, faut le dire, là. Commander King, c'est pas très fort. Même Jazz Jack Rabbit, qui était créé par Cliff Bleszinski, qui est allé après ça nous faire un Gears of War plusieurs années plus tard.
Ouais, c'est ça.
C'était correct, mais tu sais, c'était pas Super Mario, c'était pas Sonic, c'était pas très cool. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé après aux consoles de jeu.
Ou comme ça a été quoi ta première console que tu as eue à toi?
Si ma mémoire est bonne, Je crois que c'est un Nintendo 64 que vraiment j'ai eu pour moi. Mais il faut dire qu'à l'époque, j'étais aussi, j'avais commencé à travailler comme vendeur de jeux vidéo dans un magasin. Donc, c'était un peu pour moi un intérêt professionnel, t'sais, déjà, t'sais, d'avoir plusieurs consoles. Puis après, il va arriver Micro-Info, la télévision, où là, je vais faire des critiques de jeux et donc avoir accès quand même à ces consoles-là. Puis également, je pense au niveau console portable. J'ai quand même eu accès à un Game Gear à un moment donné. Donc, ça a commencé un peu là. Donc, à partir de là, je pense que j'ai eu toutes les consoles tout le temps. C'est pas quelque chose que j'ai mis de côté jamais, là. J'en ai encore aujourd'hui, puis je joue encore à des jeux sur console. Présentement, tu sais, je suis sur Destiny, sur PS4, puis sur Mario Kart, sur Wii U. Donc, tu sais, je suis sur rien, sur Xbox One.
OK, pas encore.
J'attends évidemment des jeux d'intérêt parce qu'il faut dire côté lancement, il n'y a pas grand-chose qui me fait dire ouais, je veux une Xbox One, je veux jouer à des jeux Xbox One, là, c'est zéro puis une barre.
Mais t'as-tu déjà ta Xbox One, ta PS4, puis tout ça, ou t'attends qu'ils sortent un jeu pour aller te la chercher?
Ben moi, j'attends toujours. C'est comme là, la PS4, je ne l'ai pas acheté au lancement. J'ai attendu un petit peu parce que je me disais, bof, je vais attendre qu'il y ait de quoi de cool. Puis quand, par exemple, Infamous Second Son est sorti, j'ai dit, bon, là, c'est assez, je veux une PS4. Parce que dans le fond, moi, je considère que le jeu le plus cool du lancement de la PS4, ça a été Resogun. Puis tu sais, acheter une console pour un remake de Defender, c'est pas assez, là.
C'était pas justifié.
Pas justifié. Mais là, bon, Infamous arrive, je vois Destiny s'en venir, on a accès déjà à l'alpha bêta, nous autres, très tôt, puis je veux jouer. Je vais essayer ça, parce que je pense que je vais aimer ça. Ça fait quelques années que j'ai pas joué un peu à un shooter de manière compulsive, mais je me dis peut-être c'est le temps de me remettre là-dedans, et là, ben, bon, je suis rendu level 21, donc je présume que c'est en train de je suis en train
Devenir accro.
devenir accro. T'sais, même hier soir, j'étais en train de looter la loot cave, comme tout le monde fait, là, je fais comme, mon Dieu, je suis en train de faire de quoi de complètement stupide. Parce que je veux grinder dans un jeu. Donc, je pense que je suis accro à ce jeu-là. Donc, à la Xbox One, je pense que ça va attendre à Sunset Overdrive. Je l'avais essayé au E3, puis ça m'avait paru intéressant comme jeu. Je n'étais pas 100% certain des contrôles, puis que j'allais aimer ça. Puis, je trouvais que le mode Horde qu'il y avait était. Mais je pense qu'il va y avoir un potentiel intéressant pour ce jeu-là. Puis, je vais peut-être dire, bon, ben, go, j'achète une Xbox One, puis j'encourage Microsoft qui traîne un peu de la patte actuellement.
Ah, ça, à un moment, ils vont se rattraper avec Halo, puis
Yes.
Forza Horizon 2 qui s'en vient aussi, qui est ça. Mais si on regarde, bon, t'as tes consoles et tout ça, fait que présentement, c'est quoi, mettons, si on passe un peu dans les années, on peut reculer un peu plus loin, c'est quoi les jeux qui t'ont marqué?
J'avais déjà fait l'exercice, il y a plusieurs années, de me faire un genre de palmarès par décennie. Puis même j'ai voulu faire un jour là, ce que aucun gamer devrait essayer de faire parce que c'est impossible là, quand tu as plus de 35 ans d'expérience dans le jeu, là, c'est de faire une liste des jeux auxquels j'ai joué. Puis là, j'ai fait, tu sais, ça n'a aucun bon sens. Là, je veux dire, je regardais ça et je me dis, ben là, il y en a peut-être des milliers, des dizaines de milliers, parce que c'est fou. Je dirais que dans les jeux que j'ai vraiment beaucoup apprécié, bien sûr, Tetris. Parce que si on essaie de se dire, mettons, dans 100 ans, quels jeux vont être, on va se souvenir, ou on va dire qu'on va avoir marqué l'histoire, il n'y en aura pas 10 000. Là. Il va y en avoir quelques-uns qui vont sortir comme ça. Tetris, c'est quelque chose que je trouve qui était vraiment sorti de nulle part. Puis dès que c'est arrivé, c'était comme, j'étais obsédé par ce jeu-là. Puis en plus, à l'époque, j'avais pas Tetris à l'arcade, ni le Tetris sur le NES. C'était moi sur le Commodore 64 que j'avais Tetris. Puis c'était la version avec, il y avait une toune de 30 minutes pratiquement, le non-stop, qui était vraiment écœurante, qu'on peut encore écouter sur YouTube. Puis là, j'avais vraiment joué sans arrêt à ce jeu-là. Sinon, sur PC, un jeu que j'ai beaucoup apprécié, c'est Star Control 2. C'est un jeu d'exploration spatiale. Moi, les jeux d'exploration spatiale, ça m'a toujours fasciné. C'est pour ça que quand, après ça, Mass Effect est arrivé, ou même Destiny aujourd'hui, tu sais, j'embarque à fond. J'aime ça. C'est des thèmes qui me parlent beaucoup. Star Control 2, fait ironique, tu sais, c'est un jeu qui est conçu par ce qui sont aujourd'hui les fondateurs de Skylander, tu sais, c'est Toys for Bob. Je trouve ça super drôle de travailler en collaboration avec des gens qui ont fait le jeu que j'ai probablement le plus aimé.
OK, ouais, c'est quand même intéressant.
Quand même intéressant. Après, quand j'ai eu ma phase, je dirais plus shooter, j'ai vraiment beaucoup joué à Unreal Tournament, même compétitivement, entre guillemets. C'est d'ailleurs au cours d'un tournoi d'Unreal Tournament à Québec, il y avait un endroit qui s'appelle Dream City, qui est un café internet, bien entendu, où on peut jouer à des jeux en réseau. parce que j'animais Micro-Info, on avait décidé de faire un tournoi de jeu, on avait invité des gens à venir défier notre équipe. Et c'est amusant, il y a une équipe qui est arrivée de joueurs qui travaillaient pour un studio de jeux vidéo qui s'appelait Behavior. Parmi ces personnes-là, il y avait des gens qui aujourd'hui sont mes collègues de travail et qui m'ont même reproché à l'époque d'avoir triché parce qu'il nous manquait un joueur de mon équipe. On a pris quelqu'un de la place, donc quelqu'un qui jouait souvent chez Dream City, donc qui était bon, évidemment. Et donc, on a gagné, genre, le tournoi qu'on avait fait. Puis ça, je me rappelle de m'être reproché ça par des collègues en disant « Vous avez triché! » Ça, il y en a. Moi, quand je vous dis que ce que j'aime, c'est jouer, c'est pas la résultante. Il y en a que c'est la résultante que ça intéresse plus, ouais. Puis ils s'en souviennent. Donc là, tout ça pour dire, dans le fond, que c'est pas mal, je dirais, trois jeux vraiment qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Puis bien sûr... récemment, c'est certain que Mario Galaxy 2, surtout, là, c'est en matière de level design, c'est comme tu dis, mon Dieu, ces gars-là sont des génies, ces filles-là, je veux dire, ils ont fait quoi de complètement capoté. Puis c'est le fun de voir qu'une franchise aussi ancienne est capable de se renouveler. C'est même, j'ai joué au dernier Zelda sur 3DS, puis c'est merveilleux de voir ça, c'est beau de voir que on est capable de donner un nouveau souffle à des franchises comme ça, que les gens se disent, ben là, ça fait 20 Zelda que je joue, 20 Mario, ça peut plus m'intéresser. Puis la réponse, c'est non. C'est des franchises qui m'intéressent encore et qui vont encore m'intéresser certainement. S'ils continuent de proposer des idées aussi novatrices.
Puis dans ce qui s'en vient, y a-tu quelque chose que tu attends à part Sunset Overdrive? Y a-tu quelque chose que tu attends avec impatience?
Je dirais que je suis un peu plus posé maintenant parce que je me satisfais quand même. Tu sais, je joue sur toutes les plateformes, incluant tu sais, l'iPad, je joue à plein de jeux tout le temps. Donc, je suis pas dans. Tu sais, à part Destiny, que j'attendais vraiment beaucoup, là. Mm-hmm. Là, je regarde ce qui s'en vient d'ici la fin de l'année, puis il n'y a pas grand-chose que je fais comme. Je veux vraiment jouer à ça. Tu sais, Sunset Overdrive en est un. Il y avait Evolve que j'avais vu au E3, que j'avais dit, OK, ça, c'est un peu comme Left 4 Dead. Ça pourrait que je trouve ça bien le fun. Tu sais. Puis j'aurais le goût de jouer à ça. Même chose, j'ai vu, quand j'ai vu, c'était Daylight. Tu sais, moi, j'avais beaucoup aimé Dead Island comme jeu de zombie. Puis quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai fait comme, ah, ça pourrait m'intéresser aussi. Donc, il y a toujours des jeux. Tu sais, j'ai eu la chance encore d'aller au E3 cette année. C'était la 9e fois que j'allais au E3. Je suis super privilégié. Puis je suis très heureux de ça. Et j'ai vu des jeux que j'ai fait comme, ah, OK, ça. T'sais, mais il y a des jeux que j'ai pas vus cette année, comme j'ai pas vu encore le jeu que j'attends depuis très longtemps, qui est le troisième jeu de Fumito Ueda, qui est bien sûr le jeu qui va suivre, bien sûr, Shadow of Colossus et qui suit Ico.
The Last Guardian.
The Last Guardian, c'est ça, je suis un peu triste que.
Ça traîne la patte.
Ça traîne la patte parce que t'sais, ça avait l'air grandiose comme jeu, puis ça me parlait beaucoup.
Ça sent la cancellation.
Je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut quand même dire aujourd'hui, c'est créer des jeux, c'est de plus en plus compliqué. De plus en plus coûteux et risqué. On voit des super productions sortir, puis 3-4 mois après, on voit le producteur le dire, ben écoutez, désolé, on ferme le studio, on n'a pas fait nos frais. Ça met en péril le studio, la suite, on va devoir couper parce qu'ils n'ont pas atteint 6 millions de ventes. C'est assez démesuré, là, les succès qu'il faut avoir aujourd'hui pour des jeux vidéo.
Moi, ça, les attentes sont très hautes, puis les grosses compagnies, les gros joueurs sont pas nécessairement bien ben patients.
Non.
Si tu manques ton coup, on ferme la porte. Puis c'est tout. Mais ouais, c'est ça. Mais ça, comme Last Guardian, c'est que les dernières rumeurs, c'est qu'ils ont décidé de le faire sur PS4 et Xbox One. Quand c'était prévu. C'est juste PS4 quand c'était prévu sur PS3. Ça regarde mal, mais on peut toujours espérer.
Non, mais c'est tout à fait possible. Puis, tu sais, comme c'est même pas la même technologie, on peut comprendre pourquoi ça peut traîner de la patte à ce moment-là.
Puis, si on regarde chez vous, chez Binox, bon, ben là, il y a Skylander Trap Force.
C'est Trap Team.
Trap Team, qui s'en vient bientôt. C'est
5 octobre.
C'est sur le bord. Puis, y a-tu d'autres jeux annoncés, vous autres, ou le restant, c'est tout secret? Puis, y a-tu d'autres choses déjà qui ont été annoncées, que vous travaillez dessus, ou pour le restant, c'est tout?
Tout est secret, ce qui s'en vient. On a plusieurs équipes de développement qui travaillent en simultané sur différents projets, puis je peux vous assurer qu'on est occupé, puis qu'en 2015, on aura certainement des jeux à proposer aux joueurs. Il faut quand même dire que la compagnie a connu quand même une bonne évolution. L'année prochaine, ce sera le 15e anniversaire du studio. Donc, je pense que tu sais, après avoir connu sa période conversion, et après ça, travailler sur des jeux de licence, et là, ben, ça en vient peut-être des opportunités de travailler sur des choses plus intéressantes encore.
Mais vous avez fait votre marque, vous avez fait une bonne impression à un gros studio qui est comme Activision, puis ils ont l'air à vous en donner de plus en plus. Fait que c'est d'un côté, c'est super bon pour vous autres. Ça vous permet de travailler sur des choses différentes.
Oui, puis ce qui est aussi une nécessité, il faut quand même comprendre qu'il y a des changements importants dans l'industrie du jeu vidéo depuis quelques années. C'est qu'avant, un individu pouvait avoir un jeu tout seul, puis ça marchait comme ça. Aujourd'hui, c'est encore possible avec tout le vent indie, là, mais je parle au niveau des compagnies qui font des jeux vidéo. Après, il y a eu, bon, c'est des studios qui font des jeux vidéo, et là, maintenant, c'est des groupes de studios qui font des jeux vidéo. On est plusieurs studios sur du Canada, plusieurs studios sur du Call of Duty, même plusieurs studios sur Destiny ou des méga studios. Là, c'est Bungie, c'est gigantesque comme studio. Mm-hmm. Il faut dire que ça change beaucoup la donne. Puis le fait qu'on ait trouvé on a réussi à se positionner sur cet échiquier-là, c'est quand même très bien. Parce que c'est pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise de travailler en co-développement avec d'autres studios. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Des fois, t'as la remorque de l'autre studio parce que l'autre, ils prennent du retard sur tel dossier, ou des fois, ils changent d'idée. Donc, tu sais, c'est pas toujours rose, mais c'est quand même stimulant comme milieu parce que ça permet une plus grande cogitation des idées parce que là, c'est quelqu'un qui a une idée chez nous, ça peut se ramasser chez eux, puis ainsi de suite, ça fait du chemin. Et là, je sais par exemple pertinemment que quand on avait fait sur 3DS, on avait ajouté justement les petits vilains sur l'écran du bas, puis on fait interagir avec les vilains, puis c'était super drôle. Ben ça, c'était pas prévu qu'il y ait ça sur une autre plateforme et sur la Wii U. Surprise, il va y avoir cette interaction-là, parce que là, t'as Sobob vu ça, on fait comme, ben c'est cool, on va le faire aussi. Donc, on s'envoie la balle là, de cette façon-là, c'est un travail de collectif.
Ben c'est super le fun, puis je pense que c'est une petite fierté aussi en tant, tu sais, quand je joue un jeu, puis jouer le Binox dessus, tu sais, c'est comme, ah, mais c'est un studio du Québec, tu sais, c'est le fun, c'est comme chez nous, puis c'est du monde d'ici qui ont travaillé sur ce jeu-là, puis c'est comme une petite fierté, me semble, tu sais. Fait que, félicitations à toi, ta gang, pour ce que vous avez produit, puis on va attendre vos prochains jeux avec beaucoup d'impatience.
Super.
Je pense que vous faites des bons produits, puis moi, vous m'avez eu en partant avec Shattered Dimension. J'ai tellement dévoré ce jeu-là. Je reviens là-dessus, là, mais j'ai tellement adoré ce jeu-là. C'était un des bons jeux de super-héros, qui était pas nécessairement commun d'habitude.
Non, je pense qu'il y a une grande fierté dans le studio d'avoir réalisé ce projet-là, puis on était privilégié d'avoir une carte blanche là, de faire ce qu'on veut, parce que bon, bien entendu, après, tu sais, un jeu comme The Amazing Spider-Man, c'est bien un film, il y a plus de contraintes au niveau scénaristique, même si on fait des entourloupes, hein, tu sais, on prend des chemins pour pouvoir intégrer plus de vilains dans le jeu que dans le film, parce que sinon ça serait plate.
Ça serait court.
On a quand même eu beaucoup plus de liberté créative sur Shattered Dimension. C'était vraiment un projet que tout le monde a apprécié faire chez nous. Puis même, moi, je regarde les gens qui ont travaillé sur ce projet-là. La plupart sont encore là. Ils ont vraiment trippé sur la philosophie de design à cette époque-là puis de ce qui en a résulté du succès. Puis en plus, nous, quand on a lancé le jeu à Québec, c'était le 10e anniversaire du studio, puis on a fait un lancement public où là, on a projeté sur notre édifice, l'édifice Binox de 10 mm-hmm. étages, on a projeté le jeu, c'était une projection architecturale, donc les gens, il y a 4000 personnes qui sont venues pour jouer au jeu, puis voir les gens jouer au jeu, puis c'était vraiment fun, puis c'était tellement une grosse franchise, Spider-Man, qu'on doutait pas là, de que les gens connaissent Spider-Man, tout le monde connaissait Spider-Man, ça a presque 50 ans maintenant, et c'était de voir arriver des fans, et des gens qui, par exemple, sont déguisés en Spider-Man, mais tu sais, un costume là, de qualité, là.
Oh, ouais.
Puis on fait comme, mon Dieu, d'où ils sortent ces gens-là? Puis après, tu vas à des événements comme le Comic-Con à San Diego, puis là, t'as plein de gens qui arrivent déguisés en Spider-Man noir, en Ultimate, en 2999, tu sais, ils sont là, puis ils sont vraiment crinqués. Le seul inconvénient moi, que je vois personnellement à ça, parce que bon, je suis aussi porte-parole chez Binox, donc je vois passer tous les courriers qui rentrent des gens, des commentaires qu'ils ont, c'est que ça crée des attentes immenses.
C'est ça.
Et chacun a sa vision de ce que devrait être un jeu de Spider-Man et de ce que devrait être le web-swing dans un jeu de Spider-Man. Si on a livré 4 jeux de Spider-Man, et le web-swing n'est pas le même dans les 4 jeux parce qu'il y a eu une évolution, il y a eu des discussions. Puis même à ça, je veux dire, il y a des gens qui vont dire « ben moi, j'ai préféré web-swing dans tel jeu, j'aime pas ce que vous avez fait dans ce jeu-ci. » Tu sais, ils sont super passionnés, les fans de Spider-Man. Ils n'hésitent pas, tu sais, à dire haut et fort dans les forums, sur Twitter, Facebook, qu'est-ce qu'ils pensent de tel aspect ou tel aspect du jeu. Puis bien sûr, ce qui est frustrant dans notre métier, puis ça, c'est tous mes collègues de l'industrie doivent le partager, c'est que on peut pas toujours expliquer les raisons de chacune des décisions. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont liés plus au secret professionnel, ou qui sont liés à des contraintes qu'on ne peut pas vraiment parler. Puis ça, c'est frustrant. On peut pas, quand le jeu est sur les tablettes, là, le jeu est jugé pour ce qu'il est. Puis les gens l'achètent, ils disent, ben, on commence ça, il y a telle chose dans le jeu ou il n'y a pas telle chose. T'sais, on a reçu des questions, par exemple, le dernier jeu qu'on a fait, qui est The Amazing Spider-Man 2, qui était pas super bien reçu, on s'entend. Il y a quand même des, t'sais, y a des gens qui posaient des questions aussi obscures que pourquoi dans telle animation, Spider-Man, sa main fait telle chose. T'sais, c'est du détail, là. Ou des gens qui vont te faire des suggestions pour le, mettons, son travail sur un prochain jeu. Est-ce que vous pourriez faire en sorte que Peter Parker embrasse Felicia? Tu sais, c'est des demandes précises, là.
Ouais,
On
c'est ça.
s'entend, là. Puis, ils sont passionnés, puis on les comprend. Je veux dire, c'est des gens, tu sais, qui ont, il y en a pour qui c'est leur super-héros, puis ils ont leur pyjama Spider-Man à la maison.
Ouais, c'est ça. À 40 ans
Nous,
avec son pyjama Spider-Man. Oui, il y
tu
en a.
sais, quand nous, on travaille sur une licence, que ce soit Spider-Man ou Canada ou n'importe quoi, il faut nous aussi enfiler un pyjama de cette licence-là parce que la première chose qu'on va faire, c'est l'aimer, l'apprécier, la connaître et vouloir lui rendre justice. Mais à quelque part, il y a toujours des contraintes qui sont liées à toutes sortes de raisons. Puis ça, on ne peut pas expliquer ça aux gens, puis on ne peut pas se lancer dans des débats parce que là,
Ça
évidemment,
finit
ça ouvre,
plus,
ça finit plus. Puis, mais bon, faut dealer avec ça. Il y a des conférences qui existent. Nous, on va, bon, des fois, des événements comme le Game Developer Conference, qui pour l'industrie, c'est des présentations de professionnels. Puis cette année, il y avait une conférence sur comment gérer la négativité de l'Internet, parce qu'on est rendu là. T'sais, les gens sont très envahissants. Ils viennent sur, t'sais, ils trouvent tous les moyens d'entrer en contact avec nous, des fois, pour pouvoir, t'sais, dire ça, j'aime ça, j'aime pas ça dans votre jeu. Vous devriez faire ça. Puis bien sûr, on ne peut pas accepter les idées de l'extérieur parce que là, la minute qu'on commencera à faire ça, c'est juste.
Ouais,
T'sais,
t'ouvres la porte, puis là.
Skylander, par exemple, si vous allez sur le Facebook de Skylander, vous allez voir qu'il publie des fois des dessins des fans. Mais c'est toujours des dessins de personnages existants. Ils vont jamais, jamais publier des dessins de personnages nouveaux que des enfants ont eu comme idée. C'est super cool, t'sais, c'est extrêmement
Ouais.
flatteur de savoir ça, mais on déciderait demain matin de dire, hey, ben, tel personnage, on va le faire, cet enfant-là a eu une super bonne idée. Ben là, on aurait des problèmes, des poursuites, et ainsi de suite. Donc, mais il y a beaucoup de gens c'est le fun de voir que maintenant, les gens sont conscients que faire des jeux vidéo, tu sais, c'est vraiment un job, c'est un milieu, parce qu'ils contactent, ils ont des idées, puis ils veulent les proposer leurs idées. C'est tout à fait légitime, mais malheureusement, nous, on est obligé de leur répondre, ben, désolé, on peut pas lire même votre idée, parce que ça pourrait nous influencer, et ça pourrait être dommageable pour notre studio.
Non, ah, c'est ça, faut que tu fasses attention. Tu veux pas créer un précédent. Un peu comme en justice. Mais merci beaucoup, François. Ça a été super intéressant. Je veux dire, c'est rare qu'on a l'occasion de parler avec quelqu'un qui, tu sais, souvent des gens qui jouent à des jeux, des gens qui critiquent des jeux, mais des gens qui font des jeux, c'est assez rare. Fait que j'ai trouvé ça bien intéressant de voir un peu comment ça marche à l'interne, des choses comme ça. Puis je souhaite sincèrement beaucoup de succès à toi et à ton équipe parce que vous faites des jeux qui sont super le fun puis qui, tu sais, qui nous font vivre des aventures que on vivrait pas sinon. Fait que c'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté aussi l'invitation de venir faire un tour sur le podcast. C'était bien, bien, bien,
Bienvenue.
bien le fun.
Puis comme je dis souvent, c'est nous, dans le fond, on ne met pas des vies en péril, on ne sauve pas des vies dans notre travail, mais ce qu'on fait, c'est du divertissement. Puis en
Ouais.
bout de ligne, quand on voit des vidéos de focus test de gens qui jouent à nos jeux puis qui ont du fun, ben, t'sais, mission accomplie, puis on se tape dans le dos puis on est très heureux.
Ben c'est un divertissement, ça permet aux gens de sortir de leur train-train quotidien, puis de, tu sais, de passer du bon temps à jouer à un jeu que vous avez créé, puis suivre une histoire que vous avez créée aussi. Fait que c'est vraiment super intéressant. C'est un besoin, c'est pas juste comme, tu sais, il y a du monde qui dit, ah ouais, mais c'est un jeu vidéo. Oui, mais ça permet aux gens de sortir de leur quotidien, puis de faire un peu d'autres choses, comme un film ou de la télé. Maintenant, c'est des jeux vidéo. Fait que c'est un besoin essentiel, quasiment, Star. C'est un service essentiel.
Oui,
Les jeux
puis
vidéo.
ça vous tente de travailler dans cette industrie-là maintenant. Il y a plein de programmes de formation qui existent. Il y a des gens qui, même comme moi, enseignent. On est très nombreux à enseigner. Puis c'est possible, c'est de faire carrière, de penser, je me lève un matin, je me dis, je vais faire carrière en jeu vidéo, ça existe.
Ouais, ce qui était pas possible là, c'est peut-être une dizaine d'années, c'était même pas pensable peut-être. Aujourd'hui, je veux dire, c'est quelque chose que le monde est intéressé à. Si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça, François?
Le plus simple, c'est sur Twitter. C'est Jouer, J-O-U-E-Z, parce que j'ai conservé le Twitter de Jouer, bien entendu. Donc, vous pouvez me contacter là facilement, ça va me faire plaisir. Vous pouvez m'écrire à Binox, donc F Tadei, T-A-D-D-E-I, à binox.com.
Ben, merci beaucoup, François. Moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est AskAlazormo. Il y a le compte de Histoire de Gamer qui est C-J-U-A-P. Et puis, ben, là-dessus, on se dit à la prochaine. Je vais inviter quelqu'un d'autre. J'espère qu'il va accepter. Et puis, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je remercie encore François d'être venu faire un tour, d'avoir partagé son expérience avec nous. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye!